Bonjour tout le monde. Merci à tous ceux qui se joignent à nous. On va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux que celui de notre première heure. Et je pense que c'est important qu'on soit tous conscientisés à ce sujet de discussion. C'est que vous avez peut-être noté à quel point il y a, alors qu'on n'est même pas officiellement dans la période des vacances, on n'est que le 27 juin, et malheureusement, il y a déjà trop de gens qui se sont noyés. Il y a un kayakiste qui est mort par noyade il y a quelques jours. Il a chaviré dans le fleuve au large de Capalègue, près de la Malbaie. Il y a un jeune homme de 20 ans qui est mort lundi quand son canot a chaviré sur le Grand Lac Saint-François à Lambton, qui est situé en Estrie. Il y a aussi ses enfants, deux enfants, dont un a tout de même été sauvé, un jeune garçon de 10 ans, dont le petit frère de 5 ans a perdu la vie dans la piscine familiale. Ça, c'était dans l'arrondissement Pierrefonds, Roxboro, lundi, dans le nord-ouest de Montréal. Bref, ça, pardon, c'est en avril. Mais bref, il y en a eu, là, on les additionne comme ça, puis c'est plus d'une vingtaine de personnes jusqu'à date là qui ont perdu la vie. Il faut vraiment parler de ça, parce qu'on le dit chaque année, c'est notre rencontre annuelle avec Reynald Dawkins. Merci d'être là, Reynald, directeur général de la Société de sauvetage. Puis on dirait que le message passe pas, Reynald.
Ben, et quand je le regarde sur 30 ans, je suis obligé de vous dire que le message fonctionne parce qu'on est quand même passé de 200 noyades par année à 80 en 30 ans. Mais il reste qu'on le sait, pour nous, chacune de ces noyades-là sont évitables, particulièrement celles d'origine récréative et sportive. Alors, il y a lieu là de répéter. Puis vous savez, apprendre, c'est répéter. Voilà. Donc, il faut répéter
mais
nos messages.
Mais depuis 10 ans, quand même, il y a eu des programmes. Il y a entre autres le programme Nager pour survivre qui veut sensibiliser la population à l'importance de la sécurité nautique et aquatique. Et justement, la marraine d'honneur, c'est Sylvie Bernier, championne olympique de plongeon. Bonjour Sylvie.
Bonjour Isabelle.
Je disais que le message passe pas, évidemment. Reynald m'a corrigé parce que c'est sûr que, oui, il y a eu amélioration un peu, mais quand on regarde quand même, en 2016, il y avait 21 personnes qui ont perdu la vie, en 2017, 20, mais aujourd'hui, il y en a 22, puis c'est même pas l'été encore. Il y a un vrai problème, là.
Ben, ce que je retiens du message de Reynald, c'est que oui, il y a amélioration, mais surtout que chaque noyade peut être prévenue.
Ouais.
Et pour moi, ça, c'est un message qui est extrêmement important. Et vous avez, d'entrée de jeu, parlé de tous ces jeunes qui sont morts noyés depuis le début de l'été. Et c'est un coup de poignard dans le cœur que j'ai à chaque fois, parce que derrière cette statistique, hein, parce qu'on parle de statistique, de nombre, mais il y a un jeune, il y a un visage, il y a un jeune homme, il y a un enfant, il y a une famille qui est dévastée, pas juste pour cet été, pour la vie.
Exact.
Et pour moi, le message, on ne le répétera jamais assez, les activités aquatiques, ce sont des activités extraordinaires, source de bonheur, source de joie, mais assurons-nous de les pratiquer en toute sécurité, en toute conscience, avec surtout dans ce cas-ci, la majorité de ces noyades auraient pu être prévenues en portant la veste de flottaison.
Voilà, c'est
bien
ça.
Ajustée.
Ouais, et c'est un peu la question qu'on pose aux auditeurs aujourd'hui, parce que je vous avoue que j'en ai l'impression un peu de se répéter chaque année à pareille date. Et là, peut-être qu'on doit rendre obligatoire, c'est la question qu'on se pose, le port du gilet de sauvetage. Puis à la Société de sauvetage, Reynald Dawkins, vous êtes complètement pour ça. Là. Vous dites qu'il faut absolument agir et faire en sorte que ça soit une loi et que tout le monde doive la suivre, cette loi.
On est rendu là, dans le sens que 8 fois sur 10, les gens ne la portaient pas ou ne la portaient pas correctement lorsqu'ils se sont trouvés par-dessus bord. Et Isabelle, la principale raison pourquoi les gens ne portent pas leur veste de flottaison, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de se retrouver par-dessus bord. Ouais. C'est ce qu'ils nous disent dans les sondages. Alors nous, on dit, c'est pas parce que tu attaches ta ceinture dans l'auto que tu as l'intention d'avoir un accident. C'est clair que s'il en arrive un accident, tu sais que la ceinture va faire la différence. Alors c'est la même chose avec l'eau. Faut jamais oublier que la majorité des situations, c'est des chavirements, des gens qui ont justement pas eu l'intention de se retrouver dans l'eau ou une chute par-dessus bord. Et la veste de flottaison, si elle est restée à bord ou est partie à la dérive, moindrement qu'on est en eau vive, ben naturellement, on est dans un état de choc. Et quand on est dans un état de choc, ben tous nos muscles nous alourdissent. Donc nécessairement, on se retrouve peut-être plus rapidement dans le fond de l'eau.
Ouais. En même temps, oui, Sylvie. Vas-y, parce
oui,
que j'avais
si
une
question. Si je peux rajouter justement, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. Hein. La majorité de ces accidents-là se produisent en période de vacances. Il fait beau, il fait chaud, c'est le soleil, on est parti pêcher ou on est parti faire une randonnée de canot, de kayak, de motomarine, on est avec nos amis. Parfois, il y a l'alcool. Donc, on dit que 40% des cas, il y a eu de l'alcool. Donc, c'est sûr qu'on est en train de transformer une norme sociale. De porter la ceinture de sécurité il y a 30 ans, s'il n'y avait pas eu de loi, on n'aurait pas tous adhéré à ce changement.
C'est sûr. Puis tu sais qu'il y a encore des gens qui n'apportent pas. Hein. Il y a comme un laxisme en ce moment. On a remarqué à la SAC il y a plus de gens aujourd'hui qui ont comme décidé qu'ils n'apportaient pas.
Donc, la loi aiderait à transformer cette norme-là. Mm. Parce qu'actuellement, c'est certain que les gens qui vont en balade, en bateau, n'ont pas le goût de se faire dire « porte ta veste ». Mm. Donc, la loi nous permettrait d'avoir une forme de coercition que personne n'aime, c'est sûr. Sauf que lorsque vous êtes le parent, le frère, l'oncle de cet enfant qui est mort noyé parce qu'il n'avait pas sa veste,
ouais.
Il aurait pu avoir sa veste puis ça aurait été tout simplement une anecdote à raconter à l'heure du souper.
Disons que ça éviterait sans doute un nombre de noyades. Mais en même temps, c'est pas la panacée. La preuve, c'est que toi aussi, Sylvie, je veux dire, on en a parlé il y a pas très longtemps, toi et moi, quand tu es venue à notre émission pour nous présenter ce fabuleux documentaire, Le jour où je n'ai pas pu plonger, qui rappelle donc l'histoire il y a 17 ans avec ton neveu de 5 ans, Raphaël, qui s'est littéralement noyé sous tes yeux et celle de ton frère. Vous étiez en randonnée de canot, en Gaspésie. Mm-hmm. Le canot de ton frère a chaviré, puis le petit garçon a été coincé en dessous. Vous portiez tous une veste.
Oui. Tout à fait. C'est important de le mentionner qu'on n'y s'ouvre pas tous. Dans notre cas, c'est vraiment des lacunes lors d'une activité guidée.
Ouais.
Donc, nous avions notre veste de sauvetage. Nous étions encadrés, présumément, par des guides qui, malheureusement, n'étaient pas formés, n'étaient pas des guides.
Ouais.
Donc, c'est sûr qu'en ce moment, depuis plusieurs mois, mon cheval de bataille, moi, c'est de mieux encadrer toute activité guidée au Québec, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas normé. 17 ans plus tard, vous ne savez toujours pas, lorsque vous allez faire une activité guidée, organisée, vous ne savez pas quelle est la formation des gens qui ont votre vie entre leurs mains.
Ouais.
Donc, mon cheval de bataille, c'est ça aujourd'hui. Mais parallèlement à ça, ça prend multiples stratégies pour diminuer le nombre de noyades au Québec. Et ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est la veste de flottaison. Et comme vous le mentionnez, ça n'aurait pas sauvé Raphaël, mais ça sauverait des dizaines de vies de jeunes, surtout de 18 ans et plus, jeunes hommes dans la fleur de l'âge qui pratiquent des activités aquatiques. Et pour moi, chaque noyade que l'on peut prévenir, ben c'est vraiment un pas dans la bonne direction.
Oui, c'est ça. Et surtout, toute la question de la veste de flottaison ou gilet de sauvetage est ressortie dernièrement avec l'histoire du jeune kayakiste là, qui est mort. Rénal, pourquoi en particulier ça? Parce que c'est un jeune garçon, parce que justement, il faisait une activité puis qu'il n'a pas été assez prudent. C'est ça qu'on...
Et certainement, et ça, c'est l'enquête d'investigation qui va nous le démontrer, peut-être qu'on surestimait aussi sa capacité de savoir nager.
C'est ça.
Sylvie peut aussi très bien le présenter. Elle est marraine d'honneur de nager pour survie.
Ouais.
Et lorsqu'on leur fait faire les épreuves aux enfants... ils savent tous nager selon eux, mais lorsqu'on les met au défi de réussir ce qu'on leur demande, un enfant sur deux réussit au Québec la norme nager pour survivre. Et notre prétention, c'est qu'on sait peut-être se baigner au Québec, mais savoir nager dans les circonstances où on tombe de façon involontaire, est-ce vrai? Plus souvent qu'autrement, selon les proches des victimes, ils savaient nager, mais lorsqu'on les questionne un petit peu plus, on s'aperçoit qu'ils savaient peut-être plus se baigner.
C'est ça. Et puis, il y a une différence notable, Sylvie Bernier. Et puis, parle-nous justement de nager pour survivre, parce que c'est un programme important. Parce qu'un un jeune sur deux, c'est ça qui ne sait pas nager au Québec?
Oui, un jeune sur deux en moyenne.
Ouais.
Si on retourne un peu plus dans les milieux défavorisés, dévitalisés, où les premiers arrivants, les immigrants, on est à 2/3 qui se noient s'ils tombent de façon inattendue en eau profonde. Donc, 2/3, c'est énorme. Comme Rénal le mentionne, à peu près 90-95% des enfants lèvent la main lorsqu'on leur pose la question « Savez-vous nager? » Tout le monde dit oui. Donc, on surestime, les parents aussi surestiment les habiletés aquatiques de leurs enfants, ce qui fait que toute la notion de sécurité Est malheureusement pas pris en compte lorsqu'on va sur le bord d'un plan d'eau, sur le bord d'une rivière, le bord d'un lac, le bord d'une piscine. Donc, le programme Nager pour survivre, qui se donne en troisième année suite à plusieurs recommandations de rapports de coronaires, ben, permet non seulement à évaluer les enfants, donc on est capable de voir si oui ou non ils survivraient à une chute, mais en plus, on leur enseigne trois habiletés de base qui leur permettraient justement de survivre s'ils tombent.
Nomme-les donc les trois, là, parce que ma prochaine question, c'était ça. Comment évaluer si notre enfant est capable?
Bien, la première, c'est une culbute okay. en eau profonde. C'est certain que lorsque l'enfant arrive à la piscine pour la première fois, ils ont tous une veste de flottaison. Donc, le moniteur, instructeur, l'enseignant leur fait faire une culbute pour simuler que l'enfant est perdu. Essayez de faire juste une roulade au sol, vous allez voir qu'on est, on a comme un moment qu'on est désorienté. Un petit peu le même sentiment qu'on peut avoir si on tombe d'un bateau, d'un ouais. quai, de façon inattendue. Donc, en plus, si l'eau est froide, il peut y avoir le choc thermique qui nous déstabilise aussi. Donc, cette culbute-là permet à l'enfant de revivre cette sensation-là. Là, on attend qu'il remonte la tête à la surface de l'eau. Il y a un petit moment de panique. Et ensuite, on lui demande de faire une minute de nage sur place. Donc, le temps de bien se placer la tête, de regarder alentour de lui. Est-ce qu'il y a un lieu sécuritaire où je peux me rendre? Parce que dans les rapports d'un coroner, on se rend compte que l'enfant ou l'adulte est à peu près entre 25 et 50 mètres d'un lieu sécuritaire. Et donc, la troisième habileté de base enseignée, c'est de justement de nager ce 50 mètres. Encore une fois, on commence toujours avec la veste de flottaison. Et au bout de trois séances, évidemment qu'on aspire à ce que tous les enfants puissent le faire sans veste de flottaison, mais malheureusement, on n'y arrive pas. Après ça, ce serait les séances de cours de natation qu'on devrait inclure pour chaque enfant. Mais là, on y va à la première étape. On est à nager pour survivre. On est très heureux. À la fin de cette année scolaire, on est maintenant à 17 000 enfants dans à peu près toutes les régions du Québec qui ont eu le privilège de suivre le cours, le programme Nager pour survivre. Mais notre rêve, c'est 94 000 enfants, tous les enfants du Québec, développer ses habiletés.
Mais écoute, les écoles sont en décrépitude, imagine. Il y en a qui ont même pas une piscine autour. Comment veux-tu? C'est pas simple non plus faire ça. Sylvie, tu es une formidable porte-parole, une formidable marraine d'honneur de ce programme Nager pour survivre. Sylvie Bernier, championne olympique de plongeon, si vous avez pas eu l'occasion de voir le documentaire Le jour où je n'ai pas pu plonger de la réalisatrice Lisette Marchand, c'est vraiment un très, très beau documentaire, très touchant, puis ça va vous conscientiser aussi. Merci Sylvie d'avoir pris le temps de nous parler ce matin.
Merci beaucoup Isabelle de toujours prendre le temps de parler de cette cause qui nous tient tous à cœur.
Merci bien, merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Reynald Hawkins reste avec nous parce qu'on va aborder toute la question des plans d'eau multiples. Agir en piscine, c'est pas la même chose qu'en lac, qu'en rivière ou que dans le fleuve. Donc on va parler de ça. Piscine publique, sa piscine à soi aussi. Il y a des mesures de précaution. Puis surtout, je vais vous poser la question, est-ce que vous croyez qu'on devrait, au Québec, obliger le port du gilet de flottaison, de la fameuse ceinture de sécurité, de sauvetage, en fait, sur les plans d'eau, quels qu'ils soient, et en faire une loi pour que tout le monde puisse la suivre. 514-790-9850 et ça en ferait partout au Québec, 1-866-790-9850. Pour éviter les noyades, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rende obligatoire le port du gilet de flottaison, la veste de sauvetage, dans les embarcations, bien sûr? Reynald Hawkins est avec moi, il est directeur général de la Société de sauvetage. On a Alain qui va apporter un petit amendement peut-être au projet. Bonjour Alain.
Bonjour, bon matin.
Comment voyez-vous ça? Je pense que vous êtes d'accord avec l'idée.
Ben moi, j'ai un bateau de 30 pieds depuis déjà 30 ans. Et puis, j'ai un petit dinghy qu'on appelle la Marielle, avec un petit bateau de 12 pieds, un Zodiac. Et puis, effectivement, on ne met jamais la vis dans le bateau. Ça, c'est logique. Dans le gros bateau, ça rentre. Mais dès qu'on prend le petit bateau en arrière, effectivement, il faut mettre une vis. Donc, moi, je rendrais obligatoire, oui, tous les petits bateaux en dessous de, je sais pas, 6-7 mètres, on pourrait obliger la vis, mais deux points, obliger la vis, oui, mais on est bien mieux de faire de l'éducation que d'obliger, parce que même si on obligeait la vis, il n'y a personne pour renforcer la loi.
Complètement.
Du Québec, ça, ça roule à 60 000 à l'heure au-dessus du monde, ça passe sur le bord des plages, le bateau dans le fond, la grosse vague, ça ne respecte pas les autres. Donc, c'est bien plus un problème d'éducation envers la population qu'un problème d'obliger la vis. On est bien mieux d'éduquer nos jeunes à porter une vis.
Quel lac vous êtes, Alain, vous? Sur quel lac?
Ben, j'ai été dans mes trentaines de bateaux, j'ai fait 2 mois sur les deux montagnes. Mmh. 2 mois, ça a été assez. Moi, j'étais en Ontario des Mille-Îles, mais 2 mois sur 2 montagnes, ça a été assez. C'est une folie. C'est une folie. Le monde,
vous
il
avez
roule
tellement
malade
raison.
Mental.
Vous avez raison.
C'est fou. Donc, c'est une question d'éducation. Là, parce que le gars qui roule à 80 000 à l'heure, à 20 pieds de la plage, lui, la veste, il ne sait pas. Mais il faut l'éduquer. Il faut juste l'éduquer au lieu
de... Mais ça, vous parlez de la vitesse, là. Puis le pire, mais... c'est que les gens, là, à qui tu dis, veux-tu ralentir? Tu sais, tu fais le signe, ralentis, tu vas... Ne serait-ce que pour l'érosion, ils t'envoient le doigt d'honneur, ils te arrangent. C'est comme... Ça se peut pas, ce monde-là, là.
Ça se peut pas. Ben, ce monde-là, il faut les éduquer au lieu de donner une étiquette. Une étiquette, ça marche pas. De toute façon, il n'y a pas personne. Si on est capable de laisser passer un bateau à 80 000 $ sur le bord d'une plage, la personne qui est disposée à donner une étiquette, il n'y aura pas une étiquette pour la veste, il y aura une étiquette pour la vitesse.
Pour la vitesse.
Mais il n'y a personne, ouais. Y a personne sur les plans d'eau qui fait ce job-là.
Tellement
raison. Il n'y a personne qui donne. Ben, beau mettre le règlement, mais si personne n'enforce le règlement, ça ne donne rien. Donc, ouais. On passe par l'éducation, on commence par les jeunes, et puis quand ils vont grandir, on va espérer qu'ils vont avoir une tête des épaules.
Oui, tout à fait. Merci, Alain. Jocelyn, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je serais pour pas le port du gilet obligatoire. Je suis plaisancier depuis plusieurs années et je trouve que c'est un plaisir de pas porter de gilet. C'est un peu comme si on mettrait une loi parce qu'on sait que le cancer de la peau, il faudrait que tout le monde se crème ou se protège de vêtements longs parce que c'est sûr que ça protège les vêtements du soleil. Fait que,
ouais, vous êtes contre l'obligation pour tout le monde. Vous voulez pas que ça devienne une loi. Ouais.
Ouais. Définitivement, c'est ça la beauté d'être plaisancier, c'est mettre un maillot de bain puis être prudent. Si on va à l'eau, mettre un gilet, mais quand on est dans l'embarcation, c'est sûr s'il y a de la vague de 5 pieds, là, on met un gilet, mais à un moment donné, on peut pas tout protéger. Il y a le plaisir de l'été, du vent, de la nature, mais.
Et vous aviez quoi? Vous avez quoi comme bateau, Jocelyn?
J'ai un bateau de plaisancier là, avec une petite cabine. Puis, c'est ça. Là, j'avais un bateau, un moment donné, on faisait des sports nautiques. Quand on faisait des sports nautiques, on mettait tout le temps les gilets. Tout ça.
Ouais.
Mais quand on est dans l'embarcation, imaginez-nous, on irait sur un bateau mouche, là. Bon, tout le monde porterait un gilet pendant qu'on était assis à la table, admettons. Ouais.
Et c'est là où Rénal va dire qu'effectivement, il peut y avoir des règles. Merci, Jocelyn. Un peu d'accord avec Alain, finalement.
Oui, bien sûr. Pour nous, notre position, c'est les embarcations inférieures à 6 mètres. Là, on pense à la petite chaloupe varchère. On pense justement aux canots, aux kayakistes. On pense justement aux petites embarcations dans lesquelles on va faire de la pêche. Donc, toutes celles embarcations qui sont facilement chavirables, on devrait aller là. Et moi, ma prétention, c'est que même s'il y a peu de présence de corps policiers, de patrouilles nautiques, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça serait plus facilement repérable parce que j'ai pas besoin de faire l'abordage pour aller vérifier s'ils sont conformes. Déjà, je m'aperçois que les gens ne portent pas leur veste de flottaison. Je pourrais déjà aller voir l'abordage et leur faire comprendre cet aspect-là. On est d'accord à l'éducation aussi.
Mais ce que disait Alain Jocelyn, c'est qu'il n'y a pas de police nautique.
Ben il y a la Sûreté du Québec, le SPVM, mais c'est clair qu'on pourrait pas avoir des patrouilles nautiques tout partout. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'elles sont présentes, il y a une modification de comportement chez les gens.
Tellement.
Alors, on est un petit peu à risque, je l'avoue, puis encore les plaisanciers nous le disent, on l'a entendu, les gens, malgré qu'une carte de conducteur d'embarcation de plaisance...
Tu peux le faire par Internet.
Oui, mais maintenant, c'est avec des modules de formation. Hein, c'est plus aussi facile que qu'on pouvait l'avoir au début. Il reste que... il faut y aller par l'éducation. Et dans Nager pour survivre, on parle de l'importance justement de la veste de flottaison. Et on espère que l'enfant de 8 ans, 9 ans pourra faire comprendre aussi à son père ou à sa mère de l'importance de la porter.
On a Denis qui est avec nous. Bonjour Denis, est-ce que vous seriez en faveur, vous, du port obligatoire du gilet de sauvetage dans les embarcations?
Oui, c'est ça. Moi, je vois ça tous les jours. J'ai un chalet dans les dunes de Sorel et puis ça passe... en malade, souvent, il y a des enfants qui sont assis à 9 ans, là. C'est effrayant de voir ça. Tu te dis, c'est même pas possible que quelqu'un, un parent, peut laisser un enfant aller s'asseoir là, encore en fin de semaine. Donc, après, il y a 3 gars dans une chaloupe qui étaient debout.
Ah oui, debout. Ouais.
Debout. Puis, tu sais, ils se tenaient après une corde, là, pour essayer de se tenir en équilibre, puis avec une embarcation louée, là, parce qu'on a des pourvoyeurs dans le coin. Fait que c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. S'ils ont loué ça, s'ils n'ont pas d'embarcation eux-mêmes, puis ils font ça, mais il n'y a jamais, jamais de police. Puis il y a beaucoup de monde qui se disent il y a juste une place qu'on peut prendre un verre et pas se faire achaler, c'est sur l'eau.
Pourtant, c'est là qui est passé là. Aïe, aïe, aïe.
C'était effrayant de voir passer ça.
Ben oui, merci. Denis Alain, bonjour.
Bonjour, madame, ça va?
Oui, on vous écoute, Alain, là, sur le port, l'obligation du port du gilet de sauvetage sur les bateaux, sur les plans d'eau, en fait.
Moi, c'est pour les sidoux, oui, parce que j'en vois beaucoup. Ah, moi, ouais. Ça fait 25 ans, madame, je fais du bateau. J'ai des cruiseurs. Mm-hmm. Sur les sidoux, les petites chaloupes, là, ça, c'est sûr et certain qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas leur veste de sauvetage. Puis une petite chaloupe, là, quand il y a un peu de vague, là, c'est facile à verser sur le côté. Même, j'ai vu des canots kayak, la même chose pour n'apporter. Puis aussi, ce que je trouve étrange dans le système de navigation, quand vous dites, moi, ça fait des années que je suis le plan d'eau à Magog, j'ai à peu près tout vu, mais souvent, c'est des cadets qui appellent ça de la police qui font surveillance sur le lac Memphrey-Magog, c'est pas des vrais policiers, donc ils ont un certain pouvoir limité. Puis en plus de ça, je vais vous faire rire un peu, trouvez-vous ça normal, vous, que dans la navigation, un bateau de 30 pieds, on est obligé d'avoir des rames à bord, en cas qu'on reste en panne. Comment voulez-vous ramer un bateau de 30 pieds avec des petites rames de 9 pieds de long qui touchent à peine l'eau parce que mon cruiser, il est haut, ça touche à peine l'eau. Ouais. Ça, c'est. Puis aussi, ce qui arrive, ce que j'ai remarqué à Magog puis dans d'autres plans d'eau, c'est que les petits, les personnes, là, qui, les opérateurs, là, de Marina, ça arrive souvent qu'on a des petites visites surprises avec des Kodiaks de la Sûreté du Québec. Ça serait bon à vérifier parce que c'est véridique, là. Ils sont arrangés avec les autres parce que là, ils arrivent, là, par surprise, ils mettent les Kodiaks à l'eau.
Ben oui.
Là, à la fin de la journée, là, ils passent, quand que l'opérateur de la marina il est fermé, ils passent pour avoir les petites cotes parce que là, ils disent, ben, il te manque un câble, il te manque une batterie, il te manque ça. Fait que c'est des petits cadeaux qui se donnent. Pour faire vendre, acheter tout le temps des cochonneries, puis moi, ben, j'en ai plus que pas assez. Fait que malheureusement, quand il me colle, il peut pas faire passer au bat.
Ouais, ouais. Ben oui. Je retiens en tout cas sur les motos marines, Alain, vous dites, faut vraiment les porter.
Puis les chaloupes.
Obligation pour tous ceux qui sont en chaloupe, debout, en train de pêcher.
Je peux même vous dire que s'ils ne portent pas leur veste de flottaison, ils sont obligés d'avoir plus d'équipement à bord de la moto marine. Donc là, il y a une mesure incitative de porter la veste de flottaison. Fait qu'on voit que le contexte réglementaire peut aussi avoir cette valeur ajoutée-là.
Visiblement, ça vous branche le bateau et la navigation de plaisance aussi, relié justement à l'obligation peut-être potentielle que certains experts en nautisme espèrent voir arriver au Québec, là, l'obligation de porter le gilet de sauvetage. On va s'arrêter ici, très courte pause, puis on va vous écouter encore après la pause, parce qu'il y a bien des gens qui veulent intervenir. 514-790-9850 1-866-790-9850. Dites-moi si vous êtes d'accord pour qu'on oblige la veste de flottaison. Tout de suite. On se demande, est-ce que pour éviter les noyades, puis je vous rappelle qu'en 2019, on est déjà à 22 noyades à ce jour au Québec. À pareille date, l'an dernier, Renald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, il y en avait 16, donc c'est quand même 6 personnes de plus.
Oui.
C'est assez important pour qu'on le mentionne, qu'on fasse une émission là-dessus. Puis je suis contente que ça branche mes auditeurs puis mes auditrices, parce que c'est important. François, bonjour. Est-ce que vous pensez qu'on devrait rendre obligatoire la veste de flottaison, ce qu'on appelle le gilet de sauvetage?
Oui, toutes les personnes qui ont une embarcation de plaisance, peu importe la grandeur, devraient avoir la veste de sauvetage. Parce que même si on a une embarcation de 40 pieds, si on frappe une petite embarcation, il y a des risques que ça coule, puis là, il va y avoir des noyades. Porter la veste en bateau, c'est pareil comme porter la ceinture de sécurité en auto. Porter un casque en moto, c'est la même chose.
Mm-hmm.
C'est pour ça que pour moi, c'est important. On a une embarcation, nous, ça fait 15 ans. Les enfants y apportent, nous, on l'apporte tout le temps.
Ouais, ben c'est bien. Merci beaucoup de ce beau message. Martin, vous n'êtes pas d'accord, vous, avec le port obligatoire de la veste de flottaison?
Non, je ne suis pas d'accord. Je serais d'accord pour des enfants de 12 ans et moins ou 14 ans et moins, mais c'est aux gens de se responsabiliser. Les gens le savent que c'est dangereux. Et si quelqu'un tombe et se noie, tout bad.
Ouais.
Tout le monde le sait que c'est dangereux. Fait que pourquoi il faut mettre des lois pour tout? On est des adultes. Fait que moi, je le sais. Quand je fais du bateau, j'ai ma veste, je mets ma veste.
Ouais.
Si quelqu'un ne veut pas la mettre, too bad for him. Là. S'il tombe, ben, il sait. Puis on est au courant. Là. Fait que, en tout cas. Moi, je pense que c'est aux gens de se responsabiliser.
Merci.
Tout le monde devrait avoir le gouvernement de moins. Merci.
Merci beaucoup, Martin. Jimmy, vous êtes arrivé une histoire qui aurait pu mal tourner. Hein?
Oui, c'est arrivé en fin de semaine. On était deux adultes, deux hommes en train de faire du terrassement à côté de ma piscine, à la maison, piscine hors terre. Mon épouse est là. La petite fille de mon ami se baigne dans la piscine avec son gilet de sauvetage. Elle rentre, elle sort. Elle enlève son gilet de sauvetage pour rentrer dans la maison. Ma femme le suit. Ma femme a dit, OK, tu retournes dans l'eau, je te suis. Ni une ni deux, elle part à courir, puis elle saute dans la piscine sans penser de remettre son gilet de sauvetage. Une chance que mon épouse était là, qui suivait pour aller la sortir de l'eau.
Fait que c'est votre conjointe qui est sautée à l'eau ou qui a réussi à la sortir de là?
Oui, 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 c'est ça. On était de vue. Parce que nous autres, on était en bas de la piscine, d'une piscine hors terre.
Ouais, ouais.
Mon épouse était sur le deck, là. Mm-hmm. Nous voyons. On n'a pas pensé du tout deux secondes qu'elle avait sauté à l'eau sans son gilet.
Oh, ça va vite, ça va vite. Quel âge déjà, l'enfant?
6 ans.
C'est ça. Puis elle ne savait pas nager, visiblement, la petite fille.
Non, elle ne savait pas nager. Ouais. Mon épouse est en train d'y apprendre à nager parce qu'on venait juste de parler que mon petit-fils de 6 ans, la même âge, lui, il porte son gilet ou il saute à l'eau comme ça rien, comme un poisson dans l'eau. Mais
ouais, c'est
comme téméraire. Ils ont la même âge, mais les enfants, ils n'ont pas la même habileté ou la même timidité face à l'eau.
Eh bien, bravo d'avoir été là. Merci, Jimmy. Marie-Hélène, bonjour.
Bonjour. Alors, moi, je suis pour le port en tout temps. Pourquoi? J'ai été élevée sur le bord de la rivière des Mille-Îles. J'en ai vu des cas quand j'étais jeune. Je suis devenue sauveteur national. Quand on optait sur la rivière des Mille-Îles, des chaloupes, le problème, là, c'est pas de savoir nager puis dire qu'on va se noyer ou pas. C'est que majoritairement, quand il y a un embarquement qui renverse, il y a un choc qui peut arriver à la tête. Et c'est là, conscient ou pas conscient, que je... C'est là le danger.
Ouais.
De là l'importance d'avoir la bonne ceinture, la bonne veste. Pour les enfants, ça en prend un qui a un collet pour que la tête sorte de l'eau. Puis il y a une question de look. Hein, vous savez, si les gens en ont un bronzage, qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air? Ben, on a le choix d'avoir un bronzage ou d'avoir la vie. J'ai compris le monsieur qui dit on devrait laisser le choix aux gens. Ben oui, on devrait laisser le choix, mais à quelque part, à quel prix, quand tu vois que c'est un de tes amis qui meurt puis t'as rien fait, t'as pas pu rien faire, ou t'es même pas toi-même en situation d'aider parce que toi aussi t'es dans l'eau. Fait que c'est pour ça que je me dis qu'à quelque part, oui, il y a une réglementation qui devrait être mise. Puis si les gens le font pas, ben là c'est pire parce qu'on les a avertis, il y a une loi qui dit qu'on peut avoir de la mettre, au même titre que la ceinture de sécurité. Fait qu'ils le font, qu'ils l'enlèvent, qu'ils le mettent pas, mais la loi va être là pour au moins exiger d'avoir des contrôles.
Ouais. Merci.
Et malheureusement, là, c'est partout. Puis la piscine, c'est important d'apprendre aux enfants à nager dès le bas âge pour pas qu'il arrive des choses de telle façon. C'est pas natation, là, c'est pas un choix. C'est une question de vie ou mort. On va toujours être près de l'eau. Au Québec, il y en a partout.
Ouais.
Alors, si je vous souhaite une belle journée.
Merci de votre témoignage. Merci bien. Ben, là, d'ailleurs, Ranald Hawkins, la société de sauvetage, organise des cours. Il y a des cours qui sont offerts aux gens. Là. Évidemment, il faut payer un peu.
Oui, mais dans le sens que pour nous, on fait la promotion des cours de sauvetage et d'auto-sauvetage. D'ailleurs, c'est une des recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que oui, apprendre à nager dès le bas âge, puis il y a même l'Association pédiatrique américaine qui a déjà fixé qu'à partir d'un an, on pouvait faire apprendre à nager les enfants maintenant. Donc, nous, on dit aussi, il faut apprendre à sauver quelqu'un.
Ouais.
Parce que les observations font en sorte qu'on voit de plus en plus de gens qui font des tentatives de sauvetage et malheureusement, on se retrouve avec une autre victime de noyade.
Ça, c'est l'autre chose. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? On dit, si vous allez sauver quelqu'un, mettez votre gilet, allez-y pas comme ça?
Je vous dirais
que, allez-y pas.
Je le dis souvent moi-même, je suis pas pompier, mais si un de mes enfants était pris à l'intérieur de la maison, je pense que je rentrerais pareil pour essayer de tenter le sauver. Là. Mais il reste qu'il faut avoir ces connaissances-là et ces capacités-là. Donc, en faisant les formations, en regardant, naturellement, en ayant les équipements nécessaires, on peut penser au sac à cordes qu'on a dans le bord des embarcations. C'est une belle extension de portée qu'on devrait toujours avoir sur le bord de notre quai. Si quelqu'un se noie, ben au moins on pourrait faire cette extension de portée là. Et naturellement de vérifier avec les enfants qui font nager pour survivre, on leur montre justement ces éléments là essentiels de survie aquatique.
Merci beaucoup Rénal, puis on va espérer que ça reste à ce chiffre là, qu'il n'y ait pas d'autres mauvaises nouvelles au cours de l'été, qu'on puisse profiter de l'eau. On a tellement de lacs, de rivières, de beaux plans d'eau au Québec.
C'est ce qu'on souhaite.
On veut vraiment s'amuser, non pas vivre des drames. Merci beaucoup, Ranald Hawkins.
Merci.
On va s'arrêter ici, parlant de beauté naturelle. On va aller rejoindre Marie-Julie Gagnon, notre chroniqueuse voyage, en direct de l'île de Malte. Est-ce qu'il y en a à qui ça fait penser à Game of Thrones? Tout à fait. On parle de ça après la pause.